À la fin du XVIIIe siècle, un grand débat a eu lieu autour d'une question simple. Comment se forme un être humain ? Il s'agissait de trancher entre deux possibilités. Est-ce que les humains existaient déjà totalement formés, avec des bras, des jambes, une tête et tout le reste, à l'état miniature dès le départ, avant de grandir dans le ventre de leur mère ? Ou est-ce qu'au contraire, les humains se développaient petit à petit à partir d'une forme toute simple ? La question n'était pas nouvelle. Dans son livre « Sur la génération des animaux », écrit 2200 ans plus tôt, Aristote opposait déjà ces deux possibilités. Mais pour lui, il n'y avait pas de doute. La vie d'un animal ou d'un humain commençait par la formation d'un œuf tout simple qui correspondait à sa genèse et qui se poursuivait par l'épigénèse, c'est-à-dire un ensemble d'étapes qui transformait cet œuf en un organisme complet. Mais voilà, pendant les 2000 ans qui ont suivi la publication d'Aristote, l'idée qui l'emporta était l'autre, qui devint un dogme religieux. Les humains et les animaux étaient déjà parfaitement formés, bien que minuscules, dans l'œuf. Alors vous me direz que pour trancher, il n'y avait qu'à attendre l'invention du microscope, et vous avez raison. Mais certains scientifiques croyants étaient à tel point convaincus par l'idée qu'ils allaient trouver des êtres miniatures, qu'ils en trouvèrent. Mais c'était des hallucinations. Et à la fin du XVIIIe siècle, le débat fut tranché une fois pour toutes. Nous savons depuis que les humains se développent petit à petit à partir d'une cellule unique et qu'il en est de même pour les plantes, les champignons et tous les autres animaux. La question devint alors de savoir comment, à partir d'une seule cellule, la nature arrive à fabriquer des organismes aussi complexes que nous. De cette question est née une branche de la biologie que l'on appelle l'épigénétique. Et c'est justement pour nous aider à comprendre ce qu'est l'épigénétique et le rôle qu'elle joue dans nos vies que j'ai l'honneur d'avoir avec moi trois invités qui n'étaient eux aussi, il n'y a pas si longtemps que ça, une seule cellule.
Bonjour, je suis Anne Gabory, chercheuse en épigénétique et je suis chercheuse INRAE dans l'unité de biologie de la reproduction, environnement, épigénétique et développement au centre Jouy-en-Josas-Saint-Tony. Et je suis aussi membre de la société scientifique Société francophone pour l'étude des origines développementales de la santé. Tout ça a trait à l'épigénétique. Et pour moi, un des plus grands mystères de la biologie, c'est la gastrulation. Alors c'est un mot très très moche, gastrulation. Mais en fait, c'est justement le moment le plus beau de la vie. C'est-à-dire comment l'embryon, qui est une petite boule de cellules, va commencer à être un être organisé avec des mouvements cellulaires incroyables. Et puis l'organisation, la première acquisition de l'identité cellulaire.
Bonjour, oui, je m'appelle Jean-Louis Guéant. Je tiens à dire que je suis né à Nancy, donc j'ai pas fait une grande distance pour venir vous retrouver. Je suis donc médecin hépato-gastro-entérologue, donc j'ai longtemps travaillé au CHU de Nancy sur les maladies rares du métabolisme des vitamines. Et ça m'a amené tout naturellement à me poser la question de pourquoi les carences en vitamines peuvent produire des modifications épigénétiques. J'ai fondé donc il y a trois décennies une unité INSERM qui continue d'exister aujourd'hui et qui se pose ce type de questions donc sur les interactions entre la nutrition, les gènes et les environnements. Et voilà, et maintenant, je viens de prendre ma retraite, j'ai donc une autre destinée, je suis professeur associé à Cornell University aux États-Unis. Vous savez qu'il y a des chercheurs américains qui viennent en France, donc moi j'ai fait le chemin inverse. Merci.
Alors je suis Daniel Piccoli, je suis la cellule et son évasion, l'écriture. Je viens ici pour vérifier que je n'ai pas dit n'importe quoi dans un texte qui est mon autobiographie prénatale et qui s'appelle Pompette, qui est en fait l'histoire d'un fœtus, moi, bourré. Donc, j'ai besoin de vérification.
Anne Gabory et Jean-Louis Guéant, Daniel Piccoli, bonjour et bonjour à toutes et à tous. Nous sommes en public à l'Opéra National de Nancy-Lorraine. Vous écoutez Big Bang et nous allons parler épigénétique. Bonsoir.
Christophe Galfard.
Tous les organismes vivants sur Terre sont faits à partir de ce qu'on appelle des cellules. Et toutes ces cellules contiennent une molécule spéciale que l'on appelle l'ADN. Sur cette molécule sont écrites des recettes qui, lorsqu'elles sont lues par la cellule, lui permettent de fabriquer tous les éléments nécessaires à son bon fonctionnement, comme par exemple des protéines. Chaque recette est ce qu'on appelle un gène. Il y a environ 20 000 gènes dans l'ADN humain. 20 000 gènes qui sont présents dans quasiment toutes les cellules de notre corps. Ces gènes, ils ne changent pas et leur étude est ce qu'on appelle la génétique. Ce sont des séquences d'ADN qui sont fixes, qui sont toujours là, identiques dans toutes les cellules de nos corps. Mais voilà, d'une cellule à l'autre, ces gènes ne s'expriment pas toujours de la même manière, et c'est là, Anne Gabory, que commence l'épigénétique. Vous qui consacrez votre vie professionnelle à l'épigénétique, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu son fonctionnement et peut-être pourquoi vous avez eu envie d'étudier cela ?
Alors, moi, je suis l'épigénétique, je suis tombée dedans quand j'étais petite, mon premier stage en laboratoire à 21 ans. Et j'ai travaillé sur un mécanisme qu'on appelle l'empreinte parentale. C'est comment, en fait, deux copies d'un même gène, la copie du père et la copie de la mère, ont une séquence, un ADN identique, mais vont fonctionner différemment parce que la copie du père est passée par le spermatozoïde et la copie de la mère est passée par l'ovule. Et donc, cette régulation est évidemment épigénétique au-dessus, au-delà de l'ADN. Et puis après, une fois que j'ai fini ma thèse, je suis arrivée en post-doctorat dans un autre laboratoire où là, on étudiait ces mêmes gènes soumis à l'empreinte parentale, mais dans leur relation à l'environnement. Et alors, ça a été une découverte pour moi vraiment, nous ne sommes pas des êtres qui avons que notre génome. Nous vivons, en fait, dans un environnement. Et cet environnement peut, en fait, moduler, façonner la façon dont on fonctionne.
On comprend les mécanismes un petit peu qui sont à l'œuvre pour justement façonner nos gènes.
Oui, on commence à bien les comprendre depuis que Waddington a posé le mot d'épigénétique en 1942, me semble-t-il. On a aujourd'hui beaucoup de mécanismes qui nous permettent biologiques qui nous permettent de comprendre ça. En fait, on a dans la cellule cet ADN. Et donc une partie de l'information qui doit être lue pour faire une cellule de foie et pas une cellule de cerveau. Et puis on a dans une cellule de cerveau, au contraire, des gènes qui doivent être lus pour faire une cellule de cerveau et pas une cellule de foie. Donc pour ça, en fait, l'ADN, c'est comme un petit brin ici. Pour ceux qui sont en public, je vous ai amené un petit brin avec un petit trait. C'est un gène. Donc, vous voyez,
pour ceux qui ne sont pas ici, on parle d'une ficelle blanche qui est là.
Une ficelle blanche. Donc, si cette ficelle est libre, comme ça, tendue, on peut accéder facilement au gène. Et donc, ce gène va pouvoir être lu, va pouvoir produire quelque chose. On dit qu'il s'exprime, d'ailleurs, ça peut être intéressant pour notre écrivain ici. Ce gène va s'exprimer. Et au contraire, si ce même gène-là, ou dans une autre cellule, eh bien, en fait, on a fait des nœuds autour. C'est ce que fait l'ADN, en fait. Il a une architecture avec des nœuds comme ça. Eh bien, dans ce cas-là, personne ne peut, aucune machinerie peut accéder à ce gène et il ne va pas pouvoir produire quoi que ce soit. Et donc, dans ce cas-là, on dit qu'il est réprimé.
Sur votre petite ficelle, il y a un trait de couleur qui est dessiné et qui est donc apparent lorsque le gène est tendu. On va dire que ça correspond à un gène, alors qu'il est complètement, il disparaît lorsqu'il y a des nœuds tout autour.
C'est ça.
L'épigénétique a un rapport avec la façon dont l'ADN se recourbe sur lui-même, par exemple ?
Oui, tout à fait. On parle même d'architecture de l'ADN, c'est-à-dire comment, en fait, il s'enroule sur lui-même ou au contraire, comment il se débobine pour pouvoir permettre d'accéder à une machinerie qui permet de faire fonctionner la cellule.
Jean-Louis Guéant, qu'est-ce qui, dans notre environnement, peut enclencher comme ça un morceau d'ADN pour qu'il se cache ou bien pour qu'il se mette à s'enrouler sur lui-même ? Quels sont les facteurs qui peuvent avoir un impact ?
Alors, c'est une question très compliquée. Enfin, c'est le cœur de l'épigénétique. Pour reprendre ce qu'Anne vient de dire, en fait, l'ADN, il s'enroule autour des bobines. Ces bobines, on les appelle des histones. Et puis, ça va faire des sortes de chapelets. Hein. Les nœuds, on peut reprendre l'image d'un chapelet, qui vont s'associer les uns avec les autres pour générer une torsade. Et ça va faire un peu comme un brin d'une corde de chanvre qu'on va torsader. Et ça va faire quelque chose de très compact. Donc, ça permet de mettre ce long fil d'un mètre quand même dans un noyau de quelques microcubes, ce qui est remarquable, c'est ce qu'on appelle la compaction. Et donc tout ce qui va conditionner justement l'activité, l'expression du gène, c'est l'interaction entre ces structures protéiques que sont les bobines d'histones et la molécule, le ruban d'ADN. Or, pour ça, les histones, comme l'ADN, vont subir des modifications. L'ADN va être méthylé. On rajoute un petit groupement qui est composé de carbone et de 3 hydrogènes. Et les histones, les protéines, sont également méthylées, mais également, elles peuvent avoir une phosphorylation. C'est une réaction avec l'acide phosphorique ou encore une acétylation. L'acétyl, c'est un petit groupement qui est produit par le métabolisme donc dans la cellule, et notamment le métabolisme énergétique. Donc on voit que notre métabolisme va conditionner les modifications épigénétiques. Alors pour aller un petit peu plus loin, ce métabolisme, il dépend de ce qu'on mange. Il dépend notamment des vitamines. Et ce qui est remarquable, c'est que pour faire ces réactions de méthylation sur le ruban d'ADN, mais également sur les bobines d'Histone, eh bien, il faut certaines vitamines, dont la vitamine B12, le folate, la vitamine B6, c'est ce qu'on appelle les vitamines du groupe B. Elles vont permettre de générer le groupement méthyl et de pouvoir le transmettre sur les histones et sur l'ADN par d'autres enzymes. Donc on dépend de notre alimentation et de notre environnement, oui.
Ce que vous êtes en train de dire, c'est que d'une certaine manière, il y a des petites briques qui viennent se coller sur l'ADN et qui peuvent empêcher un mécanisme de lecture, par exemple, de cet ADN, de cette manière-là. Mais ce que vous êtes en train de dire de manière sous-jacente, c'est qu'il faut que ça arrive, que ce n'est pas une mauvaise chose que ces petites briques viennent se poser sur l'ADN. C'est même au contraire, si une carence alimentaire nous empêche d'avoir ces petites briques, c'est une catastrophe pour l'organisme.
C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on dépend de notre alimentation, y compris pour l'épigénétique. Et on peut donc imaginer, je suis sûr qu'Anne, par ses travaux, il reviendra tout à l'heure, que si on a une carence en vitamine du groupe B pendant la période in utero, ça peut avoir des conséquences catastrophiques. Puisqu'on n'est pas le petit humain, on est en devenir, en développement, comme ça a été dit tout à l'heure.
Daniel Picouli, est-ce que ça vous inquiète
Rien ne m'inquiète. J'ai découvert qu'on était tous une copie. Donc, on vit dans un monde de plagiat. Donc, ça m'a rassuré, quoi, en tant qu'écrivain. Et ce que vous dites sur ce qui se passe dans le ventre de la maman, c'est vrai que moi, ma maman a eu 13 enfants. Donc, ça a commencé à une époque où j'avais des frères et sœurs qui étaient des enfants de l'après-guerre. Et leur alimentation, effectivement, moi, par exemple, je suis le premier à faire 1m85 dans ma famille, alors que mes frères et sœurs sont d'une autre taille. Ils ont été élevés à une époque de restriction. Et donc, moi, au contraire, je suis né en 48, c'était encore... Donc, je suis dans cette entre-deux, entre les années plantureuses qui vont venir par la suite et les années de guerre. Donc, ça, moi, je le ressens. Et quand j'écris dans mon livre, quand j'écris ce texte qui s'appelle Pompette, je suis un fœtus très conscient de tout ça. Je suis un fœtus conscient depuis le début. Je suis conscient qu'on s'occupe de moi. Je suis très, très bien dans le ventre de ma mère. Je ne veux pas en sortir. Et c'est elle qui va m'éjecter. Mais sinon, moi, j'y restais. Et parce que il y avait tout autour de ça une espèce de culture de l'enfant. Ma mère a fait ses enfants comme une lettre à la poste. Ça paraît rien, mais c'est une expression qui veut dire que moi, et on l'a raconté dans ma famille, ma mère les faisait les enfants comme ça. Je n'ai pas subi de traumatisme de la naissance. C'est-à-dire que je suis un garçon calme, comme vous pouvez le remarquer, qui doit ça tout simplement à cette, j'allais dire, connaissance, culture de l'accouchement qu'avait ma maman. Alors, bien évidemment, je vais passer, parce que ça, après, c'est un peu compliqué. Comme ma maman a eu deux pères différents et deux couleurs différentes, vous voyez, je suis un peu métisse. Après, ça fait des débats de famille où on m'accuse d'être responsable de ne pas avoir les yeux bleus. Voilà, donc, vous voyez, il y a des choses qui se passent intéressantes dans ma famille.
Est-ce que l'épigénétique, notre comportement, la façon dont l'environnement peut agir sur nous, peut avoir un effet sur nous à l'âge adulte? Est-ce que notre façon de vivre influe sur la façon dont nos gènes sont exprimés, Anne Gabory?
Ben, oui, je voudrais vraiment insister sur le fait qu'il y a deux aspects dans l'épigénétique. C'est-à-dire le premier aspect, c'est vraiment le fonctionnement normal de la cellule. Pour pouvoir avoir une identité de cette cellule, pour qu'elle puisse être une cellule qui est celle d'un organe avec une fonction spécifique, on a besoin de sélectionner l'information, on a besoin vraiment d'avoir un certain nombre de marques épigénétiques qui vont permettre de décider quel est le destin de cette cellule. Et puis il y a un autre aspect qui est le fait que, du fait que ce n'est pas figé comme la génétique, c'est beaucoup plus plastique. On a des enzymes qui permettent de retirer ou de mettre ces marques. Et ces enzymes-là, elles peuvent être en relation avec l'environnement. Et dans la recherche que moi je développe, qu'on appelle donc les origines développementales de la santé et des maladies, donc ce qu'on appelle développemental, c'est tout ce qui est donc la vie in utero, et même avant l'in utero, la production des ovules et des spermatozoïdes, on sait que l'environnement chimique, psychologique, métabolique et autres peut effectivement avoir des influences sur la façon dont ces marques sont mises ou retirées et influencer en fait le devenir de l'individu.
Est-ce qu'une fois que l'ADN a été méthylé, comme vous avez dit tout à l'heure, Jean-Louis Guéant, est-ce que c'est irréversible ou est-ce que c'est réversible?
Alors ça, c'est vraiment aussi une grande question. Pour prolonger ce que disait Anne, il y a un premier événement dans la méthylation de l'ADN qui se produit juste après la réplication de l'ADN. Vous savez que pour diviser des cellules, il va falloir doubler le génome puisqu'on va avoir deux cellules filles. Eh bien, juste après cette réplication de l'ADN, le premier événement moléculaire qui se produit, c'est la méthylation de l'ADN. C'est ce qu'on appelle la méthylation de maintien. Elle va reproduire exactement la méthylation qui était faite sur ce qu'on appelle le brin matrice. Vous savez qu'il y a deux brins dans l'ADN, un brin matrice et le brin qui sera répliqué. Donc là, on parle de la méthylation de maintien, ce qui veut dire qu'on va hériter de nos parents, donc des marques épigénétiques, bien sûr, qui seront transmises dans les générations. Mais là, vous évoquez le postnatal, l'exposition à l'environnement. C'est un deuxième type de méthylation. On appelle ça la méthylation des nouveaux. D'emblée, les enzymes vont méthyler les deux brins, le nouveau brin et le brin matrice. Et normalement, ces méthylations des nouveaux ne sont pas transmises. Voilà. Ce qui veut dire qu'elles vont être acquises, il y a un phénomène cumulatif au cours de la vie, et on peut même dater l'âge d'une personne, on va parler d'âge par rapport à l'âge chronologique, l'âge épigénétique, qui peut être simplement, quand on regarde la méthylation de tout votre ADN, on peut prédire de façon assez précise votre âge. Simplement, il y a des discordances pour certaines marques chez les personnes qui ont des maladies chroniques, ce qui montre que si ça fonctionne pas bien, cette exposition à l'environnement, ça peut générer des maladies. Voilà. Alors, pour terminer sur la question, oui, on peut retirer ces marques. Par exemple, la méthylation de l'ADN, ça fait appel à des enzymes qu'on appelle le système TET. Ça consomme de l'énergie, ça coûte cher à la cellule, donc ça se fait dans des conditions relativement exceptionnelles.
Les enzymes, au cas où, personne ne se souvient de ces cours d'école pour savoir ce que c'est, ce sont des molécules, c'est-à-dire des groupes d'atomes qui sont à l'intérieur de nos corps, qui ont cette particularité, qui peuvent aider à faire en sorte que des réactions se produisent. Mais ce que les enzymes ont de particulier aussi, c'est qu'elles ne sont pas utilisées elles-mêmes dans cette réaction. Donc elles restent là. C'est comme une sorte de main tendue. C'est une main qui passe un objet, quelque chose d'un endroit à un autre et qui permet à des réactions de se produire. Et ce que vous étiez en train de dire, c'est que ce sont ces enzymes-là, surtout, enfin certaines enzymes, qui réagissent à l'environnement qui nous entoure et qui peuvent avoir un effet sur nos vies à nous, mais que quelque part, fort heureusement peut-être, ça n'est pas transmissible à notre descendance. Est-ce que c'est vrai pour tous les animaux ?
Alors il y a un exemple peut-être que j'aurais dû citer et qui est vrai pour tous les animaux, c'est l'acétylation des histones. Tout à l'heure, je vous ai dit que les histones, on peut rajouter une phosphorylation, un groupement méthyle, mais également un acétyl.
Les histones, ce sont ces rouleaux autour
des... Les histones, c'est les bobines autour desquelles vont s'enrouler l'ADN, donc les nœuds à la formation de ce qu'avait montré Anne tout à l'heure. Eh bien, il y a une enzyme qui s'appelle sirtuane, c'est une histone déacétylase. C'est une enzyme qui est prédictrice de la longévité de la vie, et là, ça a été montré dans des populations dans les Andes, mais c'est également une enzyme qui est très impliquée dans les mécanismes de l'obésité et du diabète. Et son activité est diminuée, c'est probablement un des mécanismes moléculaires les mieux mis en évidence dans l'obésité pathologique. Donc vous voyez que l'alimentation, on la retrouve là, on mange beaucoup, eh bien on va avoir une diminution de cette enzyme. Et si par contre on est carencé en vitamine B12, je suis obsédé moi par la vitamine B12, je suis tombé dedans quand j'étais petit comme Obélix dans la potion magique, eh bien on aura le même mécanisme. Donc c'est marrant de voir que surnutrition peut donner la même chose qu'une carence dans une vitamine.
C'est ce qu'on regardera un peu plus en détail dans la deuxième partie de cette émission où nous partirons avec mes invités vers l'endroit que adore Daniel Picouli, c'est-à-dire le ventre d'une mère. Et comme nous parlerons de transmission et d'hérédité, je vous propose d'écouter une reprise de Father and Son de Cat Stevens par Johnny Cash et Fiona Apple.
It's not time to make a change. Just relax and take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now. And I know that it's not easy to be calm when you found something going on. But take your time, think a lot. Why think of everything you've got? For you will still be here tomorrow, but your dreams may not. How can I try to explain? When I do, he turns away again. It's always been the same old story. From the moment I could talk, I was ordered to listen. There's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go. It's not time to make a change. Just sit down and take it slowly. You're still young, that's your fault. There's so much you have to go through. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. All the times that I cried, keeping all the things I knew inside. It's hard, but it's harder to ignore it. If they were right, I'd agree. But it's them, you know, not me now. There's a way, and I know I have to go away. I know I have to go.
C'était la reprise de Father and Son de Cat Stevens par Johnny Cash et Fiona Apple. Nous sommes toujours dans le magnifique opéra de Nancy, en public et en compagnie des biologistes spécialistes d'épigénétique Anne Laborie et Jean-Louis Guéant, ainsi que de l'écrivain Daniel Picouli.
France Inter. Christophe Galfard. Big Bang.
Daniel Picouli, est-ce que vous vous souvenez de choses, de ce qui s'est passé dans le ventre de votre mère, par exemple?
Mais I have to go away, c'est la balade du fœtus, hein. Il le sait, il va falloir y aller, hein. Bien sûr.
Apparemment, vous ne le saviez pas, c'est votre mère qui vous a dit qu'au bout d'un moment qu'il fallait y aller, quand même.
J'avais une intuition de ça. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que les fœtus ont l'intuition qu'on va bientôt les expulser. Je le sens, comme ça. Et bon, pour revenir aux carences, il y a une carence qui a fabriqué la plus belle maladie que j'ai jamais eue, qui est la cécité crépusculaire. J'ai eu une cécité crépusculaire qui est un manque de vitamines.
Vitamine A.
Voilà. Et que j'ai découvert après. Mais ça fait rien, c'était très très poétique parce que la nuit descend, on voit seulement comme la nuit descend, et il y a une espèce d'impression violine comme ça. Et j'ai été très déçu d'être débarrassé de ça. Et je me demande si c'est pas avec l'huile de foie de morue, parce qu'on faisait beaucoup l'huile de foie de morue, ça servait à tout à l'époque. Dès qu'il y avait une petite carence, hop, c'était huile de foie de morue.
Jean-Louis Guéant, est-ce que c'est une maladie épigénétique?
Alors, ça peut aider. Alors, oui et non. C'est vraiment. Alors, la première chose, c'est que ce problème de vision crépusculaire, ça apporte un nom un peu savant, ésotérique, c'est l'héméralopie. C'est bien sûr principalement un problème de vitamine A, mais pas que. Effectivement, la meilleure façon de la soigner, c'est de traiter la carence. C'est très fréquent dans les pays d'Afrique de l'Ouest, hein, actuellement. Alors, il peut y avoir des mécanismes épigénétiques. On a quelqu'un dans la salle qui a travaillé sur ces mécanismes de la vision, sur des modèles animaux, où ils ont montré que les carences vitaminiques peuvent provoquer des modifications du profil de méthylation de l'ADN qui cible spécifiquement donc des enzymes et des protéines qui sont très importantes dans la rétine, dans ce qu'on appelle la transduction, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va traduire l'exposition aux photons de la lumière en signaux moléculaires pour transmettre donc la vision au cerveau. Donc oui, il y a des mécanismes épigénétiques qui vont moduler tout ça.
Vous êtes donc un exemple d'épigénétique vivant.
J'en suis assez fier.
Je pense que nous le sommes plus ou moins tous depuis le départ. Je vous propose maintenant de faire un petit bond à l'intérieur du ventre de notre mère et que nous repartions au moment où nous étions une seule cellule, l'œuf fécondé de nos parents, par nos parents, nos deux parents, disons. Cet œuf, au départ, était une cellule. Puis elle s'est divisée en deux. Elle est devenue donc deux cellules, puis quatre, puis huit, puis 16. Aujourd'hui, un corps humain d'adulte contient environ 30 000 milliards de cellules qui ont toutes en elles exactement le même code génétique. Du coup, se pose une question, et elle est probablement à l'origine de l'épigénétique dans sa globalité. La question est de savoir pourquoi nous ne sommes pas des gros blobs de cellules identiques. Si les cellules se divisent à l'identique, jusqu'à faire 30 000 milliards de cellules, comment se fait-il que nous ayons des bras, des jambes, des yeux, un nez, une bouche? Anne Gabory, il me semble que vous avez travaillé là-dessus.
Oui, donc moi, ma spécialité, effectivement, c'est je suis à la fois embryologiste et épigénéticienne, ce qui va assez bien ensemble. Hein. Waddington était lui-même embryologiste et épigénéticien. Et donc, en fait, faut imaginer, donc je vous ai dit que cet épigénome, il sert à donner une identité cellulaire, donc à définir quel type cellulaire va produire l'ADN. Et donc, à la base, on a deux cellules avec deux identités très particulières, l'ovule et le spermatozoïde. Donc le spermatozoïde, c'est quand même une identité très particulière, une toute petite tête, un flagelle. Et puis, il va aller exercer sa fonction dans le corps de quelqu'un d'autre. Donc c'est quelque chose qui, enfin, une identité vraiment particulière. Quand le spermatozoïde et l'ovule fusionnent, eh bien, on obtient la première forme de l'individu. L'individu a une cellule. Et là, il n'est plus question de l'identité de l'ovule et du spermatozoïde. Il faut effacer cette identité. Donc, on va faire un espèce de reset sur beaucoup de gènes, pas l'ensemble des gènes, mais sur beaucoup, une très très grande partie des gènes. On va effacer l'identité de l'ovule et du spermatozoïde pour permettre d'avoir, au moment où l'embryon va s'implanter, une identité qui est totipotente, c'est-à-dire qui peut tout donner. Et ensuite va arriver cette fameuse gastrulation merveilleuse, le plus beau moment de la vie, et qui va permettre de commencer à différencier les différents types de cellules. Puis ces types de cellules vont eux-mêmes se différencier en d'autres types de cellules. Et à chaque fois, en fait, il y a des décisions épigénétiques qui vont être prises pour sélectionner une partie de l'information. Et au fur et à mesure, on va obtenir le millier de types cellulaires qui compose notre individu.
Est-ce que cette sélection, elle se fait par l'environnement de la cellule elle-même, même à l'intérieur du ventre de la mère? À savoir, si les cellules se dédoublent à chaque fois, il y en a qui vont se retrouver au milieu, d'autres qui vont se retrouver en périphérie de cette boule de cellules qui se multiplie. Est-ce que c'est sa position dans cette boule, par exemple, qui va donner à la cellule sa fonction future, au départ en tout cas?
Oui, tout à fait, ça joue les forces qui s'exercent entre les cellules. On sait qu'il y a en fait un continuum entre l'extérieur de la cellule, la matrice extracellulaire, jusqu'au noyau, et que ce continuum, c'est une espèce de, je sais pas, de toile d'araignée par exemple, où si on tire d'un côté, bien ça va tirer de l'autre pour maintenir la toile d'araignée en place. Eh bien, si on tire l'extérieur de la cellule, on va sélectionner une partie de l'information dans le génome.
Donc, et ça, c'est quelque chose qui est automatique. qui est déjà inscrit oui. à l'intérieur de manière épigénétique dans les cellules.
Ça, c'est le programme de fonctionnement normal de la cellule.
Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent se passer pendant la grossesse, par exemple, qui pourraient avoir un impact épigénétique sur ces cellules-là ?
Eh bien, tout à fait. Le fœtus à l'intérieur du ventre de la mère, il est relié à la mère par le placenta. Le placenta, ça forme une barrière, c'est un organe assez formidable qui va protéger le fœtus, qui va permettre de nourrir le fœtus. Cette barrière qui peut limiter l'arrivée de pathogènes, par exemple, c'est aussi une barrière qui donc va transmettre les nutriments, transmettre un certain nombre d'informations entre la mère et le fœtus. Et ça, on sait que l'alimentation de la mère pendant la période in utero peut modifier les nutriments qui sont donnés au fœtus et donc la façon dont le fœtus va réagir. Et Jean-Louis disait tout à l'heure qu'on a un certain nombre de nutriments qui font partie de ce qu'on appelle le métabolisme énergétique, donc comment l'énergie de la cellule fonctionne, qui sont qui permettent de donner des petits groupes chimiques acétyl ou méthyl qui vont modifier l'ADN. Donc vous imaginez que s'il se passe quelque chose dans l'environnement du père avant la grossesse, de la mère avant la grossesse ou pendant la grossesse, eh bien on peut modifier la façon dont cet épigénome est effacé et la façon dont il est remis pour donner les identités cellulaires. Donc on peut modifier effectivement la façon dont on va différencier les cellules.
Daniel Picouli nous disait tout à l'heure qu'il était tout calme, probablement parce que pour sa mère, accoucher, c'était comme aller faire des courses un lundi. Ouais. Et est-ce qu'il peut y avoir éventuellement, est-ce que ce genre d'effet est réel ou est-ce que c'est statistiquement quelque chose qui arrive de temps en temps et qu'en général, l'état de stress de la mère n'a pas ce genre d'impact?
Alors je pense qu'il y a deux choses. Il y a peut-être une espèce de... Si sa mère accouche comme une lettre à la poste, peut-être que c'est une femme tranquille qui a aussi génétiquement est programmée pour être une femme tranquille et qui a transmis ses bons gènes de tranquillité à sa descendance. Et puis il y a aussi autre chose. Alors en science, on fonctionne malheureusement souvent dans le sens inverse. C'est-à-dire que plutôt que de voir ce qui va bien, pour comprendre comment ça fonctionne bien, eh bien on regarde ce qui va mal. Et il y a des expériences qui ont montré que, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, par exemple, dans la ville de Amsterdam, il y a eu un siège de la ville d'Amsterdam qui a duré pendant 6 mois, où donc c'était un stress terrible pour la population, aussi bien un stress nutritionnel puisqu'ils avaient, c'était une famine à l'intérieur de cette ville, mais aussi un stress énorme puisque c'était la guerre, que c'était un état de siège. Et il a été montré que enfants qui ont été conçus ou qui sont nés pendant ce siège de la ville d'Amsterdam à la fin de la guerre, 60 ans plus tard, ils avaient un plus grand risque de développer tout un tas de maladies métaboliques, obésité, diabète, maladies cardiovasculaires, mais aussi des troubles psychologiques comme par exemple la dépression. Il y a effectivement un lien entre le stress psychique et nutritionnel de leurs parents et leur propre stress, eux qui ne vivent pas dans un état de siège.
Jean-Louis Guéant, vous avez travaillé sur des maladies de ce type, vous en avez même découvert. Est-ce que des thérapeuties existent pour certaines maladies épigénétiques? Est-ce que c'est quelque chose qui est en plein essor? Est-ce que ça fait partie de la recherche d'aujourd'hui?
Alors, on va considérer deux situations. La situation qu'évoquait Anne à l'instant. Les travaux qui ont été faits qui ont été faits en Hollande, ils ont été repris. Après, il y a eu beaucoup d'études de population faites sur la planète. Il y a un pays qui pour lequel il y a beaucoup d'études qui ont été menées, c'est l'Inde, parce que en Inde, on a beaucoup de personnes qui sont en fait végétariens pour des raisons confessionnelles. Donc, les mamans ne consomment pas assez de viande. Or, la vitamine B12 n'est apportée que dans la viande. Et donc, il y a une prévalence, c'est-à-dire une fréquence de la carence en vitamine B12 très importante. Il y a eu des études de population pour regarder chez les enfants à 5 ans, qu'est-ce qu'ils avaient comme prédisposition à faire des maladies chroniques. Et on a trouvé que l'insulinorésistance, qui est vraiment le premier mécanisme vers le diabète, eh bien, le facteur de risque le plus important pendant la grossesse, c'était la carence en vitamine B12 de la maman au premier trimestre de la grossesse. Alors, c'est pas anodin parce que je crois qu'il y a un message de santé publique qu'on peut transposer dans nos pays occidentaux où il y a beaucoup de femmes, bien sûr, qui suivent un régime végétarien, ce qui peut être très bien. Il y a des effets bénéfiques, hein, bien entendu, mais pour lesquels il faut parallèlement prêter attention à éviter, à prévenir les carences dans certaines vitamines. Et ça, j'insiste beaucoup sur ce point. Donc ça, c'est vraiment, j'allais dire, la prédisposition aux maladies chroniques par rapport à la période in utero. Le deuxième corpus, c'est les maladies rares du métabolisme, sur lesquelles, effectivement, nous, on a beaucoup travaillé. On a eu, un jour, c'était en 2016, la surprise d'avoir un cas où, malheureusement, une petite fille était décédée précocement, hein, dans la première année de sa vie. Et quand on a fait l'étude génétique, vous abordiez tout à l'heure vraiment le côté très dominant, j'allais dire, des gènes, hein, qui vont tout régenter. C'était un peu la vision qu'on avait de la génétique hégémonique, hein, il y a quelques années. Puis l'épigénétique est venue. Et donc là, on a une belle histoire à raconter par rapport à ça. En fait, on a trouvé que il y avait simplement une mutation sur... une seule copie. Vous savez qu'on a deux copies du gène, hein, dans notre génome. Et donc, il y avait une mutation. C'est ce qu'on appelle ça un état hétérozygote. Quand on est hétérozygote, c'est pas grave, normalement. Donc, cet enfant était hétérozygote et pourtant, c'était très grave.
Ça veut dire que les deux gènes étaient là, un qui aurait pu impliquer la maladie, l'autre non, et il aurait fallu que les deux soient là pour que la maladie se déclenche.
Et donc, on a fait des travaux pendant un an et on a trouvé que c'était parce qu'il y avait une épimutation qui rendait silencieux l'autre copie de gène. Alors, ce qu'on appelle une épimutation, c'est justement quand il y a une méthylation ciblée de l'ADN qui sera responsable de la maladie. Et cette épimutation, c'est ce qu'on appelle une épimutation secondaire, parce qu'elle était provoquée elle-même par une mutation sur un gène qui était voisin du gène cible. Donc, ça peut paraître un peu compliqué, mais ça vous montre simplement que, oui, l'épigénétique, elle est présente dans les maladies rares, et notamment les maladies rares du métabolisme. Et cette nouvelle maladie, qu'on a appelée épicobalamine C, c'est maintenant la deuxième maladie la plus fréquente de ce groupe de maladies dans le dépistage néonatal en Italie. Voilà.
Daniel Piccoli, je vous vois écrire un livre.
Je prends plein de notes, je n'ai pas de tout dire. Non, mais ce qui me venait à l'esprit, c'est cette façon qu'a l'épigénétique de dès le début nous baigner dans un environnement. C'est-à-dire que quand on est dans le ventre de sa mère, c'est pas simplement un liquide comme ça abstrait et neutre, c'est un liquide social. C'est-à-dire que vous êtes aussi entouré de bruit, il y a la nutrition, il y a le rythme, il y a la maman qui travaille ou qui ne travaille pas. Je veux dire que c'est il y a une formule qui est peut-être complètement caricaturale qui dit que la génétique est de droite et l'épigénétique de gauche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça prend tout simplement en compte tous ces éléments qui influent sur nous dès le début. Donc en ce sens-là, c'est une science sociale, l'épigénétique, puisque ça prend en compte dès le début les différences auxquelles on est affectées, opposées, contraintes, dès le ventre de sa mère. Et moi, je trouve ça très important que ce soit présenté comme ça, parce que j'ai l'impression que, au contraire, dans toutes les campagnes de sensibilisation actuellement sur le poids, sur les choses comme ça, on est plus dans la culpabilisation que dans l'explication, tout simplement, du bénéfice que l'on peut, et donc que l'on n'est pas justement dans quelque chose qui est irrémédiable et qui est la fatalité telle que, parce que on est beaucoup de générations qui avons appris l'ADN comme une fatalité, on n'y touche pas, on peut pas y toucher, et je pense que c'est fondamental dans toutes ces campagnes là d'en revenir directement à l'épigénétique et de montrer en quoi c'est fondamental dès le début, dès le ventre de ma maman,
sans pour autant culpabiliser les mamans, parce que l'impact du père est aussi important que celui de la mère. Dans quelques instants, cher Jean-Louis Guéant, Anne Gabory et Daniel Piccoli, ce sera au public de vous poser quelques questions. Et en attendant, je vous propose d'écouter « Cette vie » de Clara Luciani.
Regarder le soir sombrer, s'évanouir dans la scène. Elle est encore mieux, cette fille, depuis qu'elle a croisé le tien. Et toi, tu n'es pas bien mal.
Nous venons d'écouter Clara Luciani, Cette vie.
Big Bang, Christophe Galfard sur France Inter.
Nous sommes toujours en compagnie de nos épigénéticiens préférés, Anne Gabory et Jean-Louis Guéant, ainsi que de l'écrivain qui retourne dans le ventre de sa mère, Daniel Picouli. Et maintenant, place aux questions du public. Voici la première, je vous écoute.
Bonjour. Ma question est la suivante. Quel est l'impact du microbiote sur l'épigénétique ou vice-versa?
Qui voudrait répondre à cette question?
Moi, je veux bien. Au centre INRAE de Jouy-en-Josas, on a une grosse unité qui travaille sur le microbiote, donc l'unité Michaelis. Et ils font pas mal de travaux très intéressants. En effet, ce qu'on sait sur la relation entre microbiote et épigénétique, c'est que les bactéries produisent un certain nombre d'éléments qui, eux, vont pouvoir passer la barrière intestinale, arriver dans le corps de l'individu et modifier l'épigénome. Je pense par exemple au butyrate qui va modifier les petits groupements acétyles et pouvoir ainsi modifier l'épigénome. Donc, on est effectivement en relation avec notre microbiote intestinal qui est un très bon environnement.
Merci. Est-ce qu'on a une deuxième question? Dites-nous votre prénom en nous posant la question.
Bon, mon prénom est Personne.
Bonjour Personne.
ma question, je l'ai plus sous les yeux, ça concernait les cellules cancéreuses. Je voulais savoir quel rôle de l'épigénétique se met en branle, et comment se fait-il que ces cellules deviennent folles et qu'elles tournent que pour elles et pas pour le bien de la personne?
Jean-Louis Guéant.
Alors je vais donner deux réponses. La première, c'est que on peut cibler effectivement l'épigénome dans le traitement du cancer. On a une constatation, c'est que les cellules cancéreuses sont globalement hypométhylées. Hein, voilà, donc ça veut dire qu'on allume des gènes qui ne devraient pas l'être. Puis il y a des maladies vraiment très spécifiques qui sont des maladies entre guillemets épigénétiques. On a un syndrome qu'on appelle le syndrome de Lynch qui prédispose à un certain nombre de cancers, dont le cancer colorectal. Et dans ce cas-là, il y a une hyperméthylation d'un gène qu'on appelle MLH1. Donc c'est un sous-ensemble du syndrome de Lynch. C'est des cas assez rares, mais c'est décrit. On peut avoir également une hyperméthylation d'un autre gène, MSH2. Donc voilà, vous avez le cadre général et vous avez des situations très particulières où effectivement ce sont des gènes bien ciblés qui sont en cause.
L'hyperméthylation, ça veut dire que ces gènes ne peuvent absolument pas être lus, c'est ça?
C'est ça.
Oui, donc exactement. Ils sont complètement...
C'est ce que j'ai appelé tout à l'heure des épimutations, mais là elles sont somatiques parce qu'elles ne sont présentes que dans la cellule, dans le tissu cancéreux.
Est-ce que nous avons une troisième question?
Oui, Maryse.
Bonjour.
Je me posais une question concernant la santé mentale et l'épigénétique. Est-ce qu'on peut espérer un jour, avec des techniques de reprogrammation des marques épigénétiques, soigner des troubles neurologiques comme le syndrome de stress post-traumatique ou les troubles du spectre autistique?
Alors,
Jean-Louis Guéant.
Merci, oui. Votre question, elle est très vaste parce qu'il y a beaucoup de maladies rares et de syndromes qui sont liés à des troubles de l'épigénétique, comme le syndrome de Rett, Bevitt-Wittmann, etc. Enfin, des noms un peu ésotériques que je ne vais pas décliner ici. Mais je vais répondre plus de manière plus précise sur les troubles du spectre autistique. On sait qu'il y a des problèmes épigénétiques sur la méthylation de l'ADN. Et on a fait dans notre unité un essai thérapeutique en utilisant les folates. Dans certains, un sous-ensemble en fait, des patients qui ont des troubles du spectre autistique, à l'âge jeune, dans les 5 premières années de la vie, on sait qu'il y a des auto-anticorps, donc c'est des anticorps, qui vont empêcher l'entrée des folates dans le cerveau. Et donc ça veut dire que si on traite les enfants avec de l'acide folique, il y a deux types de folates, l'acide folique et les folates réduits, ça marche pas. Par contre, si on leur donne des folates réduits, eh bien, on a eu des résultats très prometteurs. Donc voilà, il y a peut-être un espoir qui serait de traiter ce sous-ensemble des enfants très tôt dans la vie, dans les 5 premières années, avec des doses de folate réduites tout à fait usuelles. Voilà. Et ces travaux, ils ont été faits avec le professeur Ed Quadros de New York, qui avait fait également une même étude aux États-Unis, préliminaire à la nôtre, et qui montrait déjà ces résultats.
Alors, merci beaucoup pour ces réponses. Mais normalement, à ce moment de l'émission, je fais deviner un son à mes invités. Mais aujourd'hui, je vais faire quelque chose d'un peu différent. Je vais vous faire écouter un extrait que je trouve très émouvant. Et je pense qu'il va beaucoup vous plaire, Daniel Picouli. C'est un extrait du documentaire « Que sait-on du foetus ?» de Nejma Bouakra, de LSD, la série documentaire diffusée sur France Culture en 2021. Vous entendrez à la fin de l'extrait une voix, elle est celle de Bernard Golz, professeur honoraire de psychiatrie infantile et ancien chef de service de l'hôpital Necker. Ce que vous allez entendre, nous l'avons toutes et tous entendu à un moment ou un autre de notre existence, il y a plus ou moins longtemps, lorsque nous étions dans le ventre de notre mère. Vous allez entendre ce qu'entend le fœtus dans le ventre de sa mère.
Au fond, in utero, il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est que dans tous les bruits, parmi tous les bruits qui arrivent au fœtus, soit directement à travers les tissus du corps de la mère, soit en passant par le dehors et en traversant la paroi abdominale, il n'y a qu'un seul son qui est pour le fœtus vécu comme un son à la fois du dedans et du dehors, c'est la voix de la mère. La voix du père est purement extérieure. La voix de la mère, quand elle parle, une partie de sa voix va directement au fœtus et met le liquide amniotique en vibration. Le fœtus entend par la peau, d'abord, comme les dauphins, comme nous à l'opéra, comme nous qui trouvons certaines voix touchantes, caressantes, la chair de poule, etc. L'audition cutanée, elle va durer toute la vie. Après, on entendra par les oreilles, mais on continue à entendre par la peau. Ce qui fait que aucun enfant n'est totalement sourd.
Ça vous inspire quelque chose, Daniel Picouli?
Oui, il manque un... un son pour moi. Il manque la voix d'Edith Piaf chantant non rien de rien, puisque c'est ce que ma mère chantait quand j'étais dans son ventre.
Est-ce que ça vous fait un effet particulier, du coup, lorsque vous l'entendez maintenant ?
Des frissons. Des frissons, parce que je trouve ça très, très émouvant, cette idée. Et d'ailleurs, il suffit, moi, j'ai fermé les yeux pour bien retrouver cette sensation. Et ce qui peut paraître dommage, c'est qu'on l'ait oublié. Et je pense que l'écriture n'est que ça. Essayer, petit à petit, de remonter à ces sons initiaux qui nous ont formés, et je pense très profondément. Donc, remontons.
Ce que vous nous avez raconté, Jean-Louis Guéant et Anne Gabory, c'est qu'il existe plusieurs types de mémoire, finalement, que nous récupérons de nos parents. Il y a celle qui est génétique, qui est écrite, qui est inscrite, qui est immuable d'une certaine manière. Et puis il y en a une autre qui est elle aussi héritée, qui va expliquer à nos cellules comment se différencier pour fabriquer nos corps. Et enfin, il y a une autre mémoire cellulaire à l'intérieur de nos cellules qui va avoir un rapport avec l'existence même qu'ont mené nos parents. Et cette mémoire-là va rester quelque part toute notre vie en nous. Vous disiez que peut-être que nous pouvons la transmettre ensuite à nos enfants, peut-être pas. Ça va dépendre de nos vies à nous. Est-ce que vous aimeriez peut-être, à la manière de Daniel Picouli, faire une dernière petite envolée poétique sur ces idées-là?
Ben, moi, l'envolée poétique que je voudrais dire, c'est choyer les mamans. On sait que pour partir dans la vie en bonne santé, il faut que notre maman elle ait pu avoir une grossesse épanouie, avec un accès à la nourriture de bonne qualité. Il y a beaucoup de choses. Il y a tout ce qui est sensoriel, la voix, mais il y a aussi les odeurs qui se transmettent par le liquide amniotique. Et choyer les mamans pendant la grossesse, c'est aussi permettre à l'enfant de partir en bonne santé et donc de partir du bon pied dans la vie.
Peut-être que, pour terminer, vous pourriez nous parler aussi du brocoli, monsieur Jean-Louis Guéant. Il paraît-il que le brocoli a un impact particulier?
Le brocoli est ambivalent. Le brocoli est riche en folates. Je pense que certains ici le savent probablement. Donc si vous mangez beaucoup de brocoli, vous mangerez beaucoup de folates. Mais si vous mangez le brocoli sans viande, il manquera la vitamine B12. Donc vous voyez qu'une alimentation équilibrée, c'est essentiel. Mais c'est pas tout. Le brocoli est ambivalent parce que s'il n'a pas été bien cultivé, il y aura des pesticides dans ce brocoli. Et on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais les pesticides, si Anne a abordé un petit peu ce thème, ces pesticides, certaines molécules vont avoir des actions délétères sur le fonctionnement de toutes ces enzymes, cette machinerie complexe de l'épigénétique. Donc vous voyez, il faut manger des brocolis, mais des bons brocolis, et puis avec les bons autres aliments. Et c'est peut-être l'occasion de vous souhaiter un bon appétit, puisque
c'est effectivement l'heure. Et oui, c'est déjà la fin de l'émission. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés jusqu'ici. Merci à vous, Anne Gabory.
Merci beaucoup.
Merci à vous, Jean-Louis Guéant. Merci, Daniel Picouli. Je vois que vous avez déjà quasiment écrit un livre pendant l'émission.
Je voulais dire simplement à propos des brocolis qu'il a fallu qu'un président des États-Unis interdise les brocolis à la Maison-Blanche pour qu'ils disparaissent. Et ça a été un problème très, très grave aux États-Unis que de supprimer les brocolis à la cantine.
On verra l'impact sur leur descendance. Merci à vous, le public. Cette émission a été réalisée par Benjamin Riquet, à la technique Toba Robin, Charles Bouticourt, Lucien Lefebvre, Florent Layani, chargé de production Guillaume Rialan, à la programmation musicale Jean-Baptiste Audibert, à la programmation et à la préparation Élodie Royer avec le relais de Laura Dumaise.